Et dans la loi, l'apôtre, il se trouve écrit de deux hommes le témoignage des frères. Nous retrouvons le verset 15, si je m'abuse, du chapitre 19 du Deutéronome, sur le témoignage. Moi, je suis celui qui rend témoignage au sujet de moi-même, et il rend témoignage à mon sujet le Père qui me manda. Dit-on, où est ton Père? Et qui sait d'où il vient et où il va, hein? Il répondit Jésus, ni moi vous ne savez, ni mon Père. Et si vous me saviez, mon Père aussi, éventuellement, vous sauriez. Ces paroles, événements, il les dit dans le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne l'appréhenda parce que son heure n'était pas encore venue. Ce dernier verset est de nouveau un verset rédactionnel qui fait l'unité avec le chapitre présent. J'ai mis là au tableau jugement de Jésus. Alors, voyez ce jugement de Jésus, il comprend deux éléments. Il comprend la condamnation de la femme, donc c'est le jugement de la femme, et il comprend le jugement des pharisiens et la réponse. Et il faudra que nous essayions de mettre ensemble ces deux choses. Donc, les pharisiens jugent la femme, les pharisiens jugent Jésus. Jésus ne condamne pas la femme, Jésus dit qu'il juge, mais au fond c'est son Père. Qu'est-ce qu'il est en train de se jouer à travers ça? Vous voyez bien que dans le personnage, et ça va nous apparaître encore davantage tout à l'heure, vous voyez que dans le personnage de la femme, il y a en quelque sorte une figure. La figure de Jésus lui-même. En effet, cette femme se trouve accusée par les hommes, accusée par la communauté, et notamment par la communauté des femmes. Bon. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus n'a pas été pris en flagrant délit d'adultère, mais on lui a dit tout à l'heure qu'il avait un démon. C'est-à-dire qu'il faisait une autre alliance que l'alliance vraie avec Dieu. Normalement, cet être accusé d'une manière ou d'une autre d'adultère. C'est fricoter avec quelqu'un d'autre que Dieu. C'est faire une alliance avec quelqu'un d'autre que Dieu. Donc si le texte de la femme adultère a été placé juste ici, entre le chapitre 7 et le chapitre 8, c'est bien, me semble-t-il, parce qu'il veut exprimer, d'une part, puisque la femme représente toujours la communauté, la tradition juive, d'une part, que cette femme est figure de Jésus, mais qu'elle est aussi figure de l'Église de Jésus, de la communauté de Jésus. D'une communauté qui, elle aussi, est mise en difficulté, et que l'on accuse, à la fin du premier siècle, on l'accuse comme étant une communauté adultère. La communauté de Jésus est accusée par les Juifs d'être adultère par rapport au judaïsme. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'accointances. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas d'ailleurs, beaucoup d'autres, que le texte ait été composé par Saint Jean d'une seule venue, comme cela. Mais le fait d'avoir mis ce passage exactement à cet endroit ne me semble pas du tout gratuit. Il fait surgir quelque chose d'important. C'est l'unité entre Jésus et sa communauté. Et c'est vrai que sa communauté est menacée de lapidation. Regardez, Étienne, il a été effectivement lapidé, menacé d'être lapidé, c'est-à-dire d'être mis de côté par la communauté juive de l'époque. Donc quand on parle de communauté juive, vous voyez que Saint Jean est extrêmement prudent et il utilise le terme de grand prêtre et pharisien. D'habitude, il n'utilise pas ici dans son évangile, nous n'avons pas encore vu, le terme de scribe. Les scribes étant parmi les pharisiens, ce qu'on appelle généralement les docteurs de la loi, les théologiens de l'époque. Les théologiens doctrinaires, du mouvement pharisien. Or Jésus appartient certainement au mouvement pharisien. Donc Jésus fait route vers la montagne des Oliviers et revient vers le temple. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans les synoptiques, et notamment chez lui. De nouveau, à l'aube, il se rendit vers le temple, tout le peuple venait tout près de lui, et il les enseigne. De nouveau, il reprend la position du maître de sagesse. N'oubliez pas que Salomon, qui est le maître de la sagesse, a dû aussi faire un jugement entre deux femmes. Il réclamait chacune un enfant vivant comme étant de l'autre. Comme le jugement de Salomon, vous connaissez. Et justement, ce jugement de Salomon est expliqué dans l'histoire de Salomon pour montrer la perspicacité. Il juge en ayant connaissance de ce que peut être l'amour d'une femme pour son enfant. Coupez-le. Jésus va juger exactement de la même manière. Coupez-le en deux. Puisque toi tu le réclames et toi tu le réclames, coupons-le en deux, chacun aura un demi. Plus logique, c'est parfait. Non, ça ne va pas, parce que ce n'est pas une question de logique. Il se rend bien compte que la réaction de la femme dont c'est l'enfant, non, il ne faut pas le couper. Il vaut mieux qu'il vit. Tandis que l'autre dit, non, le fait, coupez-le en deux, comme ça, chacun. Ça, c'est le jugement de Salomon. Jésus va juger un peu comme Salomon. Il ne va pas s'opposer à la loi. Il va dire, suivez la loi strictement. Mais avec une clause. La clause que je vous ai lue. La clause du témoignage. Pas pour rien qu'il parle de deux témoins ou d'un témoin. La clause du témoignage, qu'est-ce qu'elle disait? Si vous êtes au témoin, et que l'on peut détecter que vous avez été faux témoin, vous pourrez subir la peine que devrait subir normalement votre victime. Mais c'est au fond quelque chose comme ça que Jésus dit. Pour découvrir ce qu'on nous dit, on nous parle un certain nombre de fois quand même dans la Bible des relations en hommes et femmes. Vous avez cela d'une façon tout à fait circonstanciée, si je puis dire, dans le Deutéronome, dans la fameuse loi deutéronomique, qui va du chapitre 12e au chapitre 16e du Deutéronome. On vient un certain nombre de fois là-dessus. On vient là aussi dans le Lévitique. Vous avez tout un ensemble de chapitres qui va de 21 à 23 dans la loi de Deutéronome. Donc, dans Deutéronome, chapitre 21 à 23, vous avez un certain nombre de lois touchant le mariage. C'est au fond la protection du lien conjugal. On vous parle par exemple des soldats ou des gens qui ont participé à une expédition et qui ramènent des captives. Ces captives deviennent femmes concubines. Si un homme a deux femmes, l'un qui aime et l'autre qui n'aime pas, c'est toujours à l'intérieur du mariage le fils qui n'obéit pas à son père. Et puis alors, à propos des femmes, justement, vous avez concernant la réputation d'une jeune femme, si un homme épouse une femme, s'unit à elle et ensuite la prend en aversion, c'est quand même une civilisation masculine. et qu'il lui impute alors des fautes et la diffame publiquement en disant « Cette femme que j'ai épousée et dont je me suis approché, je n'ai pas trouvé en elle des signes de virginité », donc calomnie, le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Autrement dit, il y a quand même un certain nombre de clauses de protection. C'est dans ce sens-là que la loi de Deutéronomique joue. Et alors, à partir de 22, du verset 22, vous avez alors les lois concernant l'adultère et la fornication. C'est à cela que ça arrive. C'est à cela donc que font allusion, que fait allusion Jésus et les pasteurs. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront, l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même, tu feras disparaître d'Israël le mal. C'est le refrain qui voilà. Il faut faire disparaître. Pourquoi? Parce que tu as traduit en Israël une faute de non-conformité à l'alliance. Adultère et fornication sont toujours des synonymes d'idolâtrie. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voilà les lois. Hein? La jeune fille, parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme, parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans la campagne que l'homme a rencontré la jeune fille fiancée, il l'a violentée et couché avec elle, elle ne pouvait pas crier, hein. Elle n'avait pas de témoin. L'homme qui a couché avec elle mourra seul. Il ne fera rien à la jeune fille. Il n'y a pas en elle de crime qui mérite la mort. Donc vous voyez, la présomption est contre l'homme. Le cas est semblable à celui d'un homme qui se jette sur son prochain pour le tuer. Car c'est à la campagne qu'il l'a rencontré. Et la jeune fille fiancée a pu crier sans que personne n'ait à son secours. Donc elle est protégée. Si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, prie sur le fait, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Elle sera sa femme, puisqu'il a usé d'elle, et il ne pourra jamais la répudier. Un homme ne prendra pas l'épouse de son père, il ne retirera pas d'elle le pan du manteau de son père. Bon, donc voilà les lois, telles qu'elles sont exprimées dans le Deutéronome. Vous comprenez bien que depuis le Deutéronome, c'est-à-dire depuis, disons, le début de la royauté, les lois deutéronomiques viennent, bon, peut-être un peu plus tard, vers le 7e siècle, pardon, telles qu'elles, difficile de dire exactement quelle clause vient de quelle époque. Mais vous comprenez bien que depuis lors, on a fait du chemin et qu'on ne lapide plus grand monde. À l'époque de Jésus, il y avait extrêmement peu de lapidation, sinon pour des crimes extrêmement graves et touchant le blasphème. Donc le blasphème voulant dire « je m'arroge un attribut divin ». Ça c'est blasphème. Ou « je fais comme si j'étais Dieu ». Du blasphème. Mais cette loi était déjà passée au sens d'une tarification. À l'époque de Jésus, il y avait des dommages et intérêts. On ne lapidait plus guère. D'ailleurs, nous avons des témoins dans le Talmud. Le Talmud parle beaucoup de tout cela, des lois conjugales, et il déploie tout un système de tarification. Et ce sont des lois casuistiques. On essaie de voir tous les cas possibles pour voir quelle est la vérité. Alors, quand les pharisiens demandent à Jésus, « Maître, oui, on l'appelle maître, rabbi, comme tu connais, cette femme a été prise en flagrant délit comme étant dans l'adultère. » Donc le cas est bien déterminé, flagrant délit. Moïse nous donna ordre de lapider. Voilà, c'est l'ordre de Moïse.
Toi, qu'est-ce que tu en dis?
Alors, ils expriment la peine dans sa littéralité. Ils ne disent pas combien est-ce que tu penses qu'il faut donner. Voilà la lettre de la loi. Il y avait la jurisprudence, mais qui dépendait de la lettre de la loi. Toi, que dis-tu? Es-tu d'accord ou pas d'accord avec la loi? Vous vous rappelez tout à l'heure? Le matin, nous avons vu, Moïse nous a donné la loi. Et pourtant, vous ne faites pas ce que la loi demande, c'est-à-dire que vous ne donnez pas la vie, alors que moi, je donne la vie. Pourtant, vous permettez à quelqu'un d'avoir la vie du peuple d'Israël en étant circoncis. Il disait ceci le tentant afin qu'ils aient à l'accuser. On se dit, Jésus ne va pas juger la femme, et donc il va à l'encontre de la loi. Donc on pourra dire, il est à l'encontre de la loi. Or Jésus fait un jugement de Salomon, et il dit, mais non, observez la loi, mais vraiment à la lettre. Jésus s'est encourbé et qui veut leur n'est-ce pas, c'est tout. Et intéressant de voir qu'au verset 7, ils insistent. Donc Jésus commence par un silence. Alors que veut dire ce silence? Comme le dit saint Augustin, ce silence veut dire, et il écrit vers la terre, ça veut dire qu'il est d'accord avec l'Écriture. Mais il faut d'abord que l'Écriture passe à travers le silence pour leur faire oublier, dit-il, l'accusation qu'ils portent. Il se redressa et leur dit, « Celui qui est impeccable, entre vous, le premier, sera le dernier. » Ça fait allusion au fait que quand on accusait quelqu'un d'une peine, comme celle-ci, une peine qui, effectivement, selon la lettre de la loi, méritait la mort, le premier accusateur, celui qui avait porté l'accusation devant le tribunal, devait jeter la première pierre. Donc c'était lui faire porter la responsabilité de l'accusation. Donc, c'est pas pour rien que Jésus dit, le premier qui est sans péché. Celui qui est sans péché, le premier lui jette la première pierre. Autre manière de dire, vous êtes tous adultères. Parce que personne ne va jeter. Donc personne. Oui, parce qu'il y a encore cette clause, il ne faut pas que j'oublie celle-là. Il y a encore cette clause. Que on ne pouvait pas accuser quelqu'un ou mettre sa voix au Sanhédrin, par exemple, quand on passait les jetons pour dire s'il était coupable ou non coupable, voté coupable ou non coupable, on ne pouvait pas, si on avait fait, d'ailleurs, une demande d'honnêteté qui était faite aux membres du Sanhédrin, si on avait commis une faute dans la ligne de la faute qui était en jeu, de l'accusation, on ne pouvait pas donner sa voix. On ne pouvait pas condamner. Donc, si parmi les gens du Sanhédrin, quelqu'un avait été infidèle à sa femme, il ne pouvait pas condamner, il ne pouvait pas dire coupable. Il pouvait dire non coupable. Donc, cette loi est une loi intérieure. Ils se sentaient tenus, ils étaient quand même assermentés, ces gens-là. Donc, il y a tous ceux qui jouent. Jésus n'est pas contre la loi. Mais il se demande quelle est la situation dans laquelle la loi peut être observée de manière absolument idéale. Elle n'existe pas. Comme on disait ce matin, on ne sait pas gérer. Hein. Les problèmes de communauté, on ne parvient pas à les gérer. Ils nous dépassent. Personne n'est en état de condamner cette femme. Il n'y a que Dieu. Et de nouveau, c'est un courbé à l'arrière écrivit. Or, ceux qui entendent dire sortir à l'âge vont tromper. Chacun est adultère, autrement dit. Et c'est bien à cela que Jésus voulait venir. Commençant d'abattre des anciens jusqu'au dernier. Ceci avec un petit clin d'œil. Et il fut abandonné seul, Jésus et la femme. Que va faire Dieu en situation humaine? Parce qu'on pourrait terminer le récit là, hein, il aurait déjà sa leçon. On arrive à plus loin. Il y a un jugement qui va être porté. Il fut abandonné seul Jésus et la femme étant au milieu. En se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne te condamna. » Personne. « Moi, non plus, je ne te condamne pas. » De quel droit ? Lui n'a pas accusé. Oui, mais on porte cette femme devant lui comme un juge. Et il a déjà fonctionné comme juge. Il n'a pas condamné les accusateurs. Il n'a pas condamné les accusateurs. Il ne condamne pas la victime. Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Donc son jugement, le jugement qu'il porte, car il porte un jugement, c'est un jugement de non-condamnation. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, j'ajoute quelque chose. Fais route. Et avec le texte commence et finit par faire route. Fais route, et à partir de maintenant, de péché. Et il faut penser que cette parole de Jésus est une parole efficace. Fais route, et à partir de maintenant, de péché. Tout à fait. C'est la caractéristique, elle vient trois fois. Deux fois au début, ils firent route chacun vers sa maison, phrase qui se retrouve telle qu'elle dans sa vie. Or Jésus fit route vers la montagne des oliviers, et fait route, et maintenant de péché. Tout ça sont des caractéristiques du style du caractère. Et donc, voyez, Jésus non seulement ne juge pas, mais il remet sur un chemin de droiture les uns comme l'autre. Puisqu'il remet les gens qui accusaient sur un chemin de vérité, tu pourrais condamner si tu étais sans péché. Et il met la femme qui a péché sur un chemin de droiture, ne pêche plus. Jésus juge, mais son jugement est un jugement de salut. Jésus est jugé. Que va-t-il faire avec le jugement des pharisiens? Il est jugé comme la femme est jugée. À quoi est-ce que lui va les renvoyer? Il va les renvoyer au témoignage, à la loi, et puis il va les renvoyer au Père. Le seul qui soit vraiment habilité à juger. De nouveau donc Jésus leur parle en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. » Et mine de rien, voilà le jugement. Comment est-il la lumière du monde dans le récit? Mais en octroyant le salut à ceux qui accusent et à celle qui est accusée. Donc voilà comment dans le texte ça fonctionne. Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Autrement dit, quand vous accusez quelqu'un alors que vous avez la même faute en vous, vous êtes dans les ténèbres. Attention, parce que tout ce qui est dit ici sur les pharisiens va revenir à propos de la ténèbre, au chapitre 9e. Il lui dit donc, les pharisiens, toi tu portes témoignage, tu as quand même ton témoignage. Allez, ça vaut mieux que toi. Il répondit Jésus, même si moi je me rends témoignage au sujet de moi-même, fais mon témoignage. Car je sais d'où je viens et où je pars. Donc il y a une référence à la paternité. Là, une paternité qui rend libre. Une paternité qui est source de liberté. Et voici que le jugement va s'expliciter. Je sais d'où je viens et je sais où je pars. Bon, je sais qui je représente. Je sais quelle est mon origine et quelle est ma fin. Et vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas mettre la main sur moi. Pas plus que vous ne pouviez mettre la main sur la femme. Pourquoi? Parce que vous jugez selon la chair, selon à partir de votre fragilité. Moi, je ne juge pas. Vous avez bien remarqué, je n'ai pas jugé. Je n'ai pas condamné. Il joue tout le temps sur les mots juger, juger condamné, juger sauvé. Et si éventuellement je juge, mon jugement est véridique. Parce que je ne suis pas seul, mais le Père, mais moi et le Père qui me mandat. Dans la loi, la vôtre, il se trouve écrit de deux hommes de témoignage est vrai. Mais en fait, c'est toujours de deux hommes en plus de la victime. Or ici, Jésus, voyez, il fait comme si lui et le Père, qui ne forment qu'un, il était en dehors de lui. Moi, je me rends témoignage au sujet de moi-même, et il rend témoignage à mon sujet, le Père qui me demande. Il lui disait donc, où est ton Père? Ni moi, vous ne savez, ni mon Père, et si vous me saviez, mon Père aussi, vous sauriez. C'est-à-dire, si vous essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire, que je ne juge pas à partir de moi-même, mais que c'est Dieu qui juge en moi, et que le jugement de Dieu est un jugement qui fait vivre, et pas un jugement qui fait mourir. Vous avez voulu lapider cette femme, donc la faire mourir. Moi, ce que je veux faire, vivre cette femme. Et par l'événement, il est dans le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne l'appréhenda, parce que son œuvre n'est pas encore. Et dans les évangiles synoptiques, c'est le moment où Jésus est précisément devant le trésor du temple, et où il voit la femme, la veuve, la communauté de Jésus. Donc ça, c'est le jugement de Jésus. Jésus ne juge pas, ou s'il juge, il juge pour sauver. Maintenant, nous allons plus loin, et les versets 21 à 47, on va vous dévoiler ce qu'est le péché. Le péché, est-ce l'adultère? Oui, mais quelle matière? Le péché, c'est quoi? Eh bien, c'est ne pas croire à l'envoyé du Père. Il n'y a qu'un péché. C'est ne pas croire en Jésus. Versets 21 à 40. Ne pas croire en Jésus comme envoyé du Père. Alors, voyons comment cela est dit. Il le dit donc de nouveau. De nouveau qui revient. Et ça a été repris vraiment comme un des jalons littéraires. Moi je pars. Et vous me chercherez. Et dans votre péché, vous mourrez. Vous aviez voulu faire mourir cette femme dans son péché. Et vous, vous mourrez dans votre péché. Là où moi je pars, vous ne pouvez venir. Il disait donc les Juifs, est-ce qu'il va se tuer lui-même? Parce qu'il dit, là où je pars, vous pouvez venir. Ils avaient déjà fait une supposition. Est-ce qu'il va aller prêcher aux Grecs? Maintenant, tu veux se faire tuer. Là où je pars, vous pouvez venir. Et il leur disait, vous, d'en bas, vous êtes. Moi, d'en haut, je suis. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous dis donc que vous mourrez dans vos péchés. Car, si éventuellement, vous ne croyez pas que moi, je suis, autrement dit, si vous ne croyez pas en ma divinité, vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis la seule source de vie. En dehors de moi, il n'y a que mort. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Et la lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne vont pas. Et puis, je disais donc, toi qui es-tu? Il leur répondit, Jésus, le commencement. Le commencement, il est le Verbe. Le commencement. Ce que aussi je vous parle. Je suis à la fois le commencement et ce commencement qui est mis à votre disposition actuelle. Beaucoup j'ai à parler à votre sujet et à juger. Mais celui qui me manda est vrai. Et moi, ce que j'entendis chez lui, ceci je le parle vers le monde. Donc j'aurais beaucoup à dire par votre sujet. Mais il y a une seule chose que je puis faire, et pourquoi je suis envoyé, c'est révéler le péché. Révéler la lumière, c'est révéler le péché. Révéler le pardon, c'est révéler le péché. On ne peut pas faire l'économie de cette révélation. Pour la bonne raison que si on fait l'économie de la révélation du péché, l'homme n'est plus responsable. Ils ne reconnurent pas que le Père, il leur disait, hein, qu'il leur parlait du Père. Et il leur disait, Jésus, quand éventuellement vous élèverez le Fils de l'homme, on revient avec le serpent des reins, alors vous connaîtrez que moi, je suis. Jésus apparaîtra en sa véritable qualité de Fils de l'homme quand il sera sur la croix. Et que à partir de moi-même, je ne fais rien. Alors vous connaîtrez que moi, je suis. Il y a ce je suis qui revient comme la répétition de ce que Dieu. Le 3, verset 14, je le donne, je voulais les autres. Mais à partir de moi-même, je ne fais rien, mais selon ce que m'enseigna le Père, ceci je le parle. Et celui qui me manda, avec moi, il est. Nous sommes inséparables. Et il ne me laissa pas seul. Ma femme avait été laissée seule à Jésus. Il ne me laissa pas seul, le Père. Parce que moi, les choses satisfaisantes pour lui, je les fais en tout temps. Nous travaillons toujours en associé. Comme lui parlait ceci, beaucoup furent en lui. Vous voyez que la vérité du discours de Jésus finit toujours par susciter la foi. Il y en a qui se convertissent. Il disait donc, Jésus, à l'adresse des Juifs qui se trouvaient croyants à lui, voici qu'il parle maintenant aux croyants. Comme dans le discours sur le pain de vie, il avait parlé à tout le monde, puis il avait parlé à ses groupes. Il disait donc, Jésus, à l'adresse des Juifs, si vous pouvez croyant à lui, si éventuellement vous demeurez dans la parole, à la mienne, vraiment mes disciples vous êtes, et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Passage important. Il répondit donc à son adresse. On a fait l'objection à propos de Moïse, c'est la même objection à propos d'Abraham. Ils ont compris qu'il fallait remonter plus haut. Mais ils remontent plus haut. Descendants d'Abraham, nous sommes. Autant. Et de personne, jamais nous n'avons été au service. Ah, c'était quand même un oubli, non ? Nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes des gens libres. Il leur répondit, Jésus. Amen, amen, je vous dis. Tout qui fait le péché, serviteur il est du péché. Or le serviteur ne demeure pas dans la maison, vers l'éternité. Le Fils demeure vers l'éternité. Si éventuellement donc le Fils vous libérera, essentiellement libre vous serez. Je sais que descendance d'Abraham vous êtes, mais vous cherchez à me tuer, parce que la parole, la mienne, ne peut n'être pas en vous. Ce que moi j'ai vu chez mon père, je le parle. Et vous donc, ce que vous entendiez chez votre père, vous le faites. C'est pour lui dire, notre père c'est Abraham. Il leur dit Jésus. Si vous étiez enfant d'Abraham, les œuvres d'Abraham, vous les feriez. Et maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a parlé la vérité que j'entendis chez le Père. Ceci, Abraham ne le dit pas. Vous faites les œuvres de votre Père. Je lui dis donc, nous n'avons pas été enfants de l'inconduite. Des adultères. Un seul père nous avons. Dieu. Pas de père, hein. Pas. Il leur dit Jésus, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi de Dieu je suis sorti et je suis de lui. Car non plus à partir de moi je suis. mais celui-là m'envoya. En raison de quoi? Le parler, le mien, vous ne le reconnaissez pas. Parce que vous ne pouvez entendre la parole, la mienne. Vous ne reconnaissez pas ma manière de parler, parce que vous n'avez pas le même père. Quand on est de deux familles différentes, on ne parle pas exactement de la même manière. Il y a un langage qui vous parle. Même si la langue est dans le même dictionnaire. Vous, du père le diable vous êtes. Et les désirs de votre père, vous voulez les faire. Celui-là, c'est-à-dire le diable, homicide, il était à partir du commencement. Vous voyez, nous voilà reportés au chapitre 3 de la Genèse. Et dans la vérité, donc il est homicide à partir du commencement. Et dans la vérité, il ne s'est pas tenu debout, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand éventuellement il parle le mensonge, de ses réalités propres il parle. C'est un menteur depuis A jusqu'à Z. Parce que menteur il est, et son père, père du mensonge. Comme moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas en moi. Qui d'entre vous me convaincra au sujet du péché? Si je dis la vérité, en raison de quoi vous ne croyez-vous pas à moi? Celui qui est de Dieu, les paroles et vêtements de Dieu, il entend. En raison de ceci, vous n'entendez pas, parce que de Dieu, vous m'êtes. Donc Jésus, ici, dévoile le péché de l'homme. Et derrière ces pharisiens, il faut bien entendre notre propre péché. Quel est le véritable péché? Alors, j'ai mis ne pas croire à l'envoyé du Père.
Mais ils ne disaient pas ça aux croyants.
Oui. Bien sûr. Il dit cela aux croyants. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le péché des croyants qu'il dévoile.
Ça pourrait dire.
Ah, voilà, vous pouvez décourager. C'est ça qui est extraordinaire dans ce texte. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Ceux qui avaient cru, ils se dégoûtent. Pour celui qui ne croit pas, il n'y a pas de péché quand même. Pour pécher, il faut croire. Pour qu'il y ait rupture d'alliance, il faut qu'il y ait une alliance. Donc ce que Jésus est en train de faire, c'est la grâce de leur vie, leur dévoiler qu'ils sont pécheurs. Et dévoiler que le péché, le véritable péché, c'est ne pas vouloir entrer dans la vérité. Et que la vérité, c'est vraiment la liberté. Le problème est de savoir, quand nous avons la foi, quel est notre véritable père. Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est le père de notre Seigneur Jésus? Et ce que vous voyez ici dans ce chapitre 8 nous est dit d'une autre manière au chapitre 16e, par exemple, de l'évangile de Matthieu. Où vous avez un dévoilement par la personne de Pierre, de cette filiation du tout. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le fils de Dieu. Donc la foi de Pierre était exacte. Il reconnaissait en Jésus le fils de Dieu. Et pourtant, quand Jésus parle de sa passion, Pierre refuse. Et que dit Jésus? Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle. C'est ce dévoilement-là. Notre foi n'est pas chimiquement pure. Alors, Pierre va dire, c'est dégoûtant, enfin, ça va les dégoûter. Moi, je dis, ça va les encourager. Puisque notre foi n'est pas chimiquement pure, puisqu'il nous dévoile tout ce qui est biaisé dans notre foi, tout ce qui n'est pas libre, il est en train de faire pour nous, comme il fait pour la femme adultère, va et désormais le péché. Si tu as bien situé, si tu as construit ton péché, si tu prends, si tu as le courage, si tu prends sur toi d'être véritablement pécheur, alors tu peux être sauvé. Si tu refuses d'être pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Question de vie ou de mort. Ah, voyez, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Mais évidemment, dans un langage qui nous est quelque peu hermétique, quand nous lisons ce texte, ce n'est pas possible. Hein. Il voulait bien qu'on ait attaché cette nature. Je le reprends, ce texte, il me dit donc de nouveau, moi je parle, vous me chercherez, et dans votre péché, vous mourrez. Pourquoi vous me cherchez? Mais parce que vous avez quand même découvert qu'il y avait quelque chose qui parlait en moi. Seulement vous me cherchez pour mettre la main sur moi. Parce que vous en savez mieux. Vous pensez mieux. Et moi je vais m'en aller là où vous ne pouvez plus. Je vais échapper à votre emprise. Et c'est ça qui va manifester qui je suis. Alors, il se pose la question, est-ce qu'il va se tuer lui-même? Alors Jésus dit, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas sur ce plan-là que je vous mets. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je suis pas de ce monde. Je vous dis que vous mourrez dans votre péché, dans vos péchés, car si vous ne croyez pas en moi, je suis, que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ou bien je suis la seule source du salut, mais dans ce cas-là, vous êtes là. Vous êtes dans le mort, si vous ne croyez pas en moi. Ou bien moi-même, je suis ce que vous dites, un menteur, un possédé, un homme qui va se suicider. Le suicide était toujours considéré dans la tradition juive comme une révolte contre Dieu qui donne la vie. Et c'est pourquoi, par exemple, les gens qui ont été trouvés à Masada, puisqu'ils se sont tués les uns les autres, n'ont pas été inhumés dans un cimetière. On les a mis dans un petit mausolée en face de Masada. C'est aussi la raison pour laquelle autrefois, parce que le suicide avait cette valeur-là, elle ne l'a plus tellement maintenant, parce qu'on a tellement psychologisé les choses, on a bien perçu que ça n'a plus cette valeur-là. Un suicide, à l'époque biblique, avait vraiment cette valeur d'attenter à la vie que Dieu m'a donnée. Or, c'est ce que j'ai de plus précieux, puisque quand un homme est mis dans la situation ou bien de tuer quelqu'un, ou bien de se tuer lui-même, il doit plutôt choisir de tuer l'autre. C'est une obligation dans la loi juive. Parce qu'il est responsable de sa propre vie. L'autre est responsable de se sauver éventuellement. Mais il est responsable de sa propre vie, pas de l'autre. Un accident, par exemple. Hein. Tomber dans le précipice, et épargner une vie hein, de quelqu'un qui est sur le chemin. Bon, un exemple. Bien, la loi juive fait donc une obligation de tuer plutôt l'autre. C'est dit de cette manière-ci, dans cet indice de rabbin actuellement, quand tu sais que ton ennemi va se lever à 6h du matin pour venir te tuer, tu vas te lever à 5h du matin, tu vas aller te tuer. De manière bien les gens pour rire, mais la façon de se défendre, c'est d'attaquer. Mais, vous voyez, donc quand Jésus dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il va plus loin. Et c'est tous ces problèmes-là qu'il est en train de discuter. Vous sentez très bien que toutes ces discussions sont au fond des discussions de l'Église chrétienne. Du judaïsme de reste des juifs et du judaïsme devenu chrétien, qui était finalement celui-là. Ça dévoile aussi notre péché. Est-ce que notre foi est vraiment réelle? Est-ce que nous croyons que Jésus est vraiment le Fils du Père? Et si nous le croyons, nous sommes également les fils du Père. Puisque c'est cela qu'il est venu nous révéler. Et lui, il dit, non, toi qui es tout. C'est ce qui peut commencer. Et ce que je suis en train de vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger, mais celui qui me mandat est vrai, ça c'est la chose la plus essentielle. Et moi, ce que j'entendis de chez lui, ceci je le parle à lui. Donc Jésus est fidèle à la paternité, donc à la vie qu'il a reçue de son Père. Et le juif doit être fidèle, et le chrétien doit être fidèle à la paternité qu'il a reçue de son Père. Donc il ne faut pas faire mentir notre Père. Donc il faut laisser le Père devenir vrai en nous. Ne pas faire mentir son Père. Ne pas agir comme un bâtard. Ils ne reconnurent pas que le Père, que du Père, il leur disait. Et Jésus leur dit encore, quand éventuellement vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez le Père. La révélation de Jésus comme Fils du Père va se manifester dans son élévation sur la terre. Mais selon que m'enseigne mon Père, ceci je le parle, et celui qui me manda avec moi il est, il ne me laisse pas seul. Mais je fais tout ce qui lui plaît toujours. Mais comme il parlait, ceci, beaucoup plus vrai. Donc la révélation du péché doit amener à une foi plus grande. La révélation du péché. Et normalement, le pardon de Dieu nous révèle notre péché, au sens où il nous prend au sérieux. Il ne nous dit pas, t'en fais pas, t'es pas coupable, je fais pas attention. Non ! Tu es coupable et je te sauve de cette culpabilité. Alors, beaucoup plus loin, ça c'est la vraie liberté. Alors Jésus dit à la messe des Juifs, qui se trouvait croyant à lui. Si vous demeurez dans ma parole, vraiment vous êtes vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors ils vont discuter sur cette liberté.
Nous sommes libres quand même. Hein. Abraham nous a libérés.
Abraham est sorti du milieu